simplement vont être des exemples. Vous aimez une jolie fille, moi.
Des objets de méditation extraordinaires qui s'appellent les mangshen, les pierres de rêve.
Vous pouvez aussi refouler ça, ça c'est un autre problème. D'ailleurs, c'est pas...
Je m'offre à tous les vents sans réticence. Moi, je me balance, je m'offre à qui je prends, le cœur indifférent. Venez, venez vite, je veux tout, mais tout de suite, entrez dans ma danse. Moi, je me balance, des graphes et des cols blancs de vos consciences. Moi, je m'en balance. Mon lit est assez grand pour des milliers d'amants. Moi, je me balance au soleil de minuit, de mes nuits blanches. Moi, je me balance, chacun sera servi, mais c'est moi qui choisis. C'est moi qui invite, c'est moi qui vous quitte. Sortez de ma danse. Moi, je me balance. Parmi tous vos désirs, vos médisances, moi, je m'en balance. Sans adieu ni merci, je vous laisserai ici. Sans adieu ni merci, je vous laisserai ici. Car je m'en balance, je m'en balance, je me balance. Au soleil de minuit, de mes nuits blanches. Moi, je me balance. Chacun sera servi, mais c'est moi qui choisis. C'est moi qui invite. C'est moi qui vous quitte. Sortez de ma danse. Moi, je me balance. Parmi tous vos désirs, vos médisances. Moi, je m'en balance. Sans adieu ni merci, je vous laisserai ici. Sans adieu ni merci, je vous laisserai ici. Car je m'en balance, je me balance, je m'en balance, je me balance.
Oui, donc Barbara, je suis absolument une fan, enfin inconditionnelle, je pourrais dire. Au-delà de l'image de la femme fatale, en fait, qu'on pourrait saisir dans cette chanson, c'est surtout une grande liberté de ton que je trouve, même quand elle aborde des sujets plus graves comme la mort, la maladie, etc. Là, c'est l'amour dont il s'agit, et je trouve que cette femme a fait évoluer les mentalités de par sa légèreté dans ses chansons, et notamment celle-ci, quoi.
Voilà, Stéphanie Arc. Voilà. Stéphanie Arc, bonjour.
Bonjour.
Donc toute la programmation musicale, on vous la devra ce matin, c'est votre émission. Stéphanie Arc, on est ensemble parce qu'on va parler d'un petit livre que vous avez publié dans cette collection qui s'appelle Les idées reçues, hein, mm-hmm. aux éditeurs, cet éditeur qui s'appelle Le Cavalier Bleu. Et ce livre, eh bien, parle des lesbiennes. Alors, on le sait, il y a beaucoup d'idées reçues hein, sur le sujet, et vous les prenez pour point de départ, et vous apportez donc un éclairage qui est un peu distancié et très approfondi sur ce que l'on sait ou sur ce que l'on croit savoir. Alors, les femmes dont vous parlez, Stéphanie, Fanny ont un point commun, elles s'aiment entre elles, on les désigne toutes sur le nom de lesbiennes, et je crois que ça vous dérange un peu parce que, en fait, on fait de leur sexualité le socle de leur identité, alors que elles sont assez différentes en beaucoup de points, hein, ne serait-ce que socialement, professionnellement, il y a beaucoup de différences aussi dans la pratique de leur sexualité, et elles sont globalisées. Ça, c'est un point très dérangeant.
Tout à fait, oui. Il y a une constitution, il y a la création, la constitution d'une identité lesbienne, d'une essence presque de lesbienne, qui date, donc on peut situer, parce que mon livre, j'ai beaucoup cherché à enraciner les idées reçues.
Mmh.
Voilà, à faire une sorte de généalogie de ces idées reçues. Mmh. Et donc, sur cette idée d'identité lesbienne, c'est Michel Foucault, hein, qui, donc, dans l'histoire de la sexualité, le premier a parlé de cette constitution d'un personnage de l'homosexuel, à la fin du 19e siècle, par les médecins, notamment allemands au départ, ont créé ce personnage de l'homosexuel en lui donnant des attributs, comme un substrat, dirait Aristote, avec son essence et ses attributs. Et donc, dans les attributs des lesbiennes, on trouve notamment la masculinité, comme chez l'homosexuel masculin, on trouvera la féminité, l'efféminement. Et donc, cette identité-là, elle date de la fin du 19e, elle s'est élaborée tout au long du 20e siècle. Mais en réalité, ce que j'ai voulu montrer, c'est que les lesbiennes, entre guillemets, sont des femmes comme les autres. Et qu'il n'y a pas, finalement, de raison de fonder une identité spécifique simplement sur une préférence sexuelle. Cela dit, ça se justifie, on pourra en reparler, ça se justifie pour d'autres raisons. Notamment, cette identité, elle tient à un ensemble de repères et de communautaires, comme on pourrait les appeler, de ces lesbiennes, qui se retrouvent dans une certaine culture, etc., dans certaines modes communautaires. Et cette identité-là, elle est justifiée par notamment le fait que l'homophobie est encore virulente. Donc on a besoin de se définir comme lesbienne. Aussi parce que la société nous définit comme telle. La société définit les femmes qui aiment les femmes comme des lesbiennes. Pour les isoler d'un point de vue définitionnel et identitaire, pour dire en somme, nous ne sommes pas, nous, homosexuels, quoi.
Alors, beaucoup d'idées reçues. Et entre toutes les idées reçues qui concernent l'origine. Pourquoi est-ce qu'une jeune femme, pourquoi est-ce qu'une femme devient lesbienne? Alors, dans ces idées reçues, il y en a beaucoup. Alors, elles sont assez étranges. Et on va essayer de parler de certaines de ces idées reçues concernant les origines de ce phénomène-là. Alors, je vais vous lire, on va comprendre à quel point ça peut être étonnant. Il paraît que les lesbiennes ont dans leur oreille un cartilage d'une forme complètement différente de celui des autres femmes, un osselet avec un nom hyper compliqué. Ça prouve que l'homosexualité n'est pas un caractère acquis, mais inné. Alors là, c'est un livre quand même, on imagine que ça a été publié au XVIIe siècle, pas 1999. Et même des études assez récentes pourraient dire que les lesbiennes ou homosexuelles, la différence résiderait dans la longueur des doigts. Et ça se passe dans une université américaine et pas dans des siècles passés. Quand même très étonnant.
Tout à fait, oui. Effectivement, cette petite citation que vous avez faite, alors provient d'une fiction, d'un roman.
Oui.
Mais
qui part à partir de...
Voilà, tout à fait. Donc je tenais quand même à préciser, c'est Murakami qui écrit ça. Cela dit, c'était extrêmement intéressant et parfois assez cocasse de faire ce livre parce que j'ai interviewé donc des chercheurs américains qui travaillent actuellement, donc dont un à Berkeley, et cette histoire d'oreille, de la cochlée comme on appelle, c'est-à-dire l'oreille interne, certains continuent à travailler encore dessus en montrant justement que les lesbiennes masculines, parce qu'évidemment ils s'intéressent surtout aux lesbiennes masculines, qui sont les vraies lesbiennes, les féminines étant de pseudo lesbiennes ou des bisexuelles, donc ils s'intéressent donc surtout aux lesbiennes masculines et ils ont montré. Alors, ils essayent de montrer que c'est l'homosexualité féminine est liée à une masculinisation, en fait, de ces femmes anatomiques, biologiques, en somme, et que ces histoires de doigts, de longueur des doigts et d'oreilles internes qui résonnent, en fait, ils ont montré que l'oreille interne, par exemple, des lesbiennes résonnait un peu de la même manière plutôt que celle des hommes, plutôt que celle des femmes. Donc ils essayent comme ça de tirer d'un point de vue anatomique ou biologique ces lesbiennes vers l'homme, en fait, vers anatomiquement, pour expliquer que c'est pour ça qu'elles préfèrent les femmes. Parce que dans la société, il faut absolument être un homme pour avoir du désir pour une femme. C'est pas concevable autrement. Dans la binarité des sexes et des sexualités, ce qu'on appelle la binarité des sexes et des sexualités, le désir, il s'explique comme ça. Quand on est un homme, on désire les femmes, et quand on est une femme, on désire les hommes. Et du coup, quand on est lesbienne, c'est qu'on est quelque part un homme, en fait.
Alors d'ailleurs, évidemment, la sexualité est pour beaucoup réduite aussi à un ensemble de réponses hormonales. Alors ça serait aussi cette question de plus de testostérone, évidemment. Mais alors, est-ce que les hormones peuvent être les seuls facteurs à être mis en cause, Alors d'autres chercheurs peuvent dire aussi c'est les gènes, c'est le cerveau. Alors là, il y a quand même Larousse médical de 1912. Alors c'est assez étonnant. Je vais lire ce que dit le Larousse médical. Voilà, les homosexuels ont un problème d'odorat et l'inversion sexuelle provient de cette faiblesse olfactive. Serait-il moins sensible aux fragrances de l'autre sexe?
Tout à fait. Non, ils ont cherché tout un tas de causes anatomiques. c'est assez incroyable de ce qu'ils ont pu imaginer en termes d'hormones, d'anatomie.
Donc, ce qui est intéressant, c'est que la recherche est aussi, alors on parle des idées reçues dessus et des préjugés, la recherche serait donc victime aussi des préjugés.
Tout à fait. Alors, mais ça date, c'est pareil, ça a commencé au début du 20e, quand les médecins ont essayé de trouver des causes biologiques. Et au final, ça partait d'un bon sentiment, c'est-à-dire qu'en montrant que l'homosexualité était biologique, était dans le corps, en fait, de l'individu, qui était du coup différent des autres, ils ont montré ainsi qu'on ne pouvait pas blâmer ces personnes-là, qu'on ne pouvait ni essayer de les faire changer, ni les traiter de pervers, d'un point de vue à la fois soit médical, soit religieux. Ce n'étaient pas des malades, c'était des gens simplement qui étaient différents. Et du coup, à la fois, c'est expliqué à l'homosexuel, et en général, ces recherches biologiques sur la biologie sont menées souvent par des homosexuels eux-mêmes, en fait. Et aux États-Unis, c'est quelque chose qui perdure. C'est-à-dire que pour nous ici, ça nous paraît totalement à la fois cocasse, rigolo et puis en même temps aberrant qu'on continue à chercher des gènes de l'homosexualité qu'on n'a toujours pas trouvé par ailleurs. Mais les neurobiologistes en France que j'ai interviewés sont assez mesurés, c'est vrai. Ils disent « bon, ben, on n'a pas trouvé, pourquoi pas ?» Je veux dire, on n'est pas seulement des purs esprits. Je veux dire, on vient de l'animal, enfin, etc. Donc la sexualité, on sait tous très bien aujourd'hui que c'est aussi c'est aussi le corps. C'est le corps d'abord, avant tout. Et donc du coup, il ne serait pas non plus complètement impensable d'imaginer qu'on puisse isoler certains facteurs qui suscitent ce désir-là. Mais les neurobiologistes français, Catherine Vidal ou Alain Prochain, etc., que j'ai interviewé, bon, on commençait par me dire, oui, c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est un petit peu abracadabrant toutes ces recherches, et que pour l'instant, pour l'heure, on n'a pas trouvé le fameux gène, on n'a rien trouvé du tout.
Alors, comme on ne trouve rien, il y a quand même beaucoup d'idées reçues qui peuvent continuer. Et alors, juste une petite parenthèse, quand même, qui est assez impressionnante, ce n'est qu'en 1990 que l'homosexualité a été retirée de la liste des maladies connues.
Hein. Oui, tout à fait, par l'OMS. Donc, c'est en 92, en réalité, que c'est effectif, c'est l'Organisation Mondiale de la Santé, donc qui retire l'homosexualité de la liste des maladies mentales. Le DSM. Aux États-Unis, c'était en 1974, donc c'est l'Association des psychiatres américains, donc un peu plus tôt. Alors, ce qui est marrant, c'est que ça s'est fait par référendum. J'aime bien citer cette petite anecdote. Aux États-Unis, ça s'est fait par référendum. Donc, du jour au lendemain, tous les homosexuels étaient guéris, en fait.
Alors, quand même, c'est peut-être Freud qui a été le premier à dire que l'homosexualité n'était pas une maladie. Mais quand même, il entretient un rapport peut-être un petit peu ambigu avec l'homosexualité, parce que les lesbiennes, donc, ne seraient pas malades, mais immatures.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, la psychanalyse, alors Freud, j'ai quand même tendance à pas à le défendre, mais à, c'est-à-dire qu'il faut le lire dans le texte. En fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se réfèrent à Freud par ses successeurs. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Freud n'a jamais dit, par exemple, ses successeurs, on pouvait plus être psychiatre ensuite quand on était ou psychanalyste, pardon, quand on était.
Ça c'était quand même jusqu'en 2001, Stéphanie. Tout à fait. Jusqu'en 2001, on a refusé aux homosexuels le droit d'exercer la psychanalyse.
Tout à fait. Mais Freud ne dit pas du tout ça. Hein. Dans le texte, la psychogenèse d'un cas d'homosexualité féminine, le seul, en gros, où il évoque l'homosexualité, un cas d'homosexualité. Ce qu'il appelle un cas, très, très dans le détail, il écrit noir sur blanc que c'est pas du tout une maladie et puis qu'on peut pas, alors ça c'est assez drôle quand même, il faut savoir que c'est en 1920, il dit on peut pas faire changer, on peut pas transformer un homo en hétéro, pas plus que l'inverse quoi. C'est-à-dire que voilà, il dit faut arrêter d'essayer de les guérir, de les faire, dévier. Il dit sauf si, enfin dévier leur trajet, sauf si la personne elle-même le vit mal et qu'elle désire en parler avec le psy, etc. Mais là, en l'occurrence, dans cette anecdote, ce sont les parents qui amènent la patiente à Freud. Et Freud leur dit, mais écoutez, je peux rien faire pour vous, quoi. c'est pas une maladie et je pourrais pas remettre votre enfant dans le droit chemin. Et c'est assez drôle.
Alors, ce que vous dites, en filigrane, j'ai l'impression, vous dites, Stéphanie, vous dites, c'est une préférence. Donc, il vaudrait peut-être mieux essayer de comprendre le mécanisme du désir, plutôt que d'en identifier les causes de cette homosexualité.
Oui, c'est-à-dire que c'est ça, c'est vraiment ma perspective. Et d'ailleurs, il y a un travail très intéressant à faire à ce sujet. Moi, je trouve qu'il est intéressant, il serait intéressant, bien sûr. Il y a des chercheurs qui le font, mais qui s'interrogent sur le désir globalement. Qu'est-ce que c'est le désir? Qu'est-ce qui nous attire les uns vers les autres? Pourquoi on préfère telle personne ou telle personne? Mais pourquoi s'interroger uniquement sur le désir homosexuel? Bon, ça part d'une forme de stigmatisation aussi. C'est-à-dire qu'on considère que c'est le seul désir, enfin le désir qui n'est pas normal, qui n'est pas dans la norme. Et du coup, il doit avoir une cause spécifique, quoi. Enfin, on ne peut pas imaginer, parce qu'encore une fois, c'est pareil. C'est parce que ça permet d'isoler les homosexuels du reste de la population. C'est-à-dire, s'il y a une cause, ça veut dire que moi, ça ne m'arrivera jamais, quoi. Ouais. Avec la chanson qui s'appelle Brother. C'est un groupe donc, de filles, la chanteuse de Cathy Sketch, et qui s'est séparé, un groupe américain qui s'est séparé l'année dernière après un seul album. Et en fait, c'est un groupe qui est assez important. D'abord, qui a eu pas mal de succès parmi les lesbiennes. Donc, ça fait partie des groupes que j'appelle, qui font partie des repères un peu communautaires, de la culture lesbienne, en fait. Bien sûr, parce que c'est un groupe de femmes, parce qu'aussi, ce sont des lesbiennes revendiquées. Et puis, parce qu'elles ont... ce qui est important aussi, c'est qu'elles ont... je les ai découvertes par la bande originale de... L-Word, qui est une série donc américaine qui situe un tournant en fait qui est récente, hein, qui est 2003 je crois, et qui situe un tournant dans la visibilité lesbienne en fait, parce que c'est une série donc qui a été produite par Hélène Schenken aux États-Unis et qui est L-Word, c'est le mot en L aux États-Unis, ça veut dire le mot lesbienne en fait. C'est une périphrase pour désigner les lesbiennes aux États-Unis. Et en fait, cette série, elle est fondamentale parce que ce sont, quasiment uniquement que des lesbiennes en fait, des personnages homo. Elle a été extrêmement bien produite, extrêmement bien diffusée. Elle est passée sur Canal+, en prime time dans un premier temps. Et puis c'est une série qui met en scène des femmes homosexuelles, qui vivent au quotidien. On les voit évoluer. Un groupe d'amis. On les voit dans leur vie quotidienne, dans leur couple, dans leur l'homoparentalité. Éventuelle. Et c'était fondamental parce que c'est, je crois, la première série qui montre les choses d'une manière aussi sereine, aussi sans homophobie, évidemment, parce que c'est aussi une lesbienne qui l'a réalisée. Et puis ça offre une nouvelle visibilité aux femmes, parce que c'est vrai que les lesbiennes, on en parle très peu, on en voit très peu encore à la télévision. Jusqu'à il y a peu de temps, on les voyait sous une forme uniquement négative. Elles étaient malheureuses, névrosées, mises au banc de la société, tabassées, etc. Ou pas forcément tabassées, mais en tout cas sous un jour très négatif. Et cette série, c'est que du bonheur. Donc ça a été fondamental pour plein de filles, en fait.
Florence, voix contre oreille, sur Aligre FM.
Stéphanie Arc, on est ensemble, on parle de votre livre, il a pour titre Les Lesbiennes, c'est un livre qui est publié dans la collection Idées Reçues aux éditions Les Cavaliers Bleus. Alors on va passer en revue certaines des idées reçues, et entre autres on a beaucoup d'idées reçues sur les origines du fait qu'une femme peut aimer une femme. Alors je vais dire ce que a dit le Front des Lesbiennes Radicales, c'était en 1981, et voilà ce qui est dit: toutes les femmes doivent devenir lesbiennes, c'est-à-dire solidaires, résistantes, non collaboratrice. Alors, est-ce que l'on serait lesbienne par féminisme, par attirance, une attirance qui serait liée à des convictions politiques? Donc, est-ce que cette homosexualité serait un choix politique, un refus justement du patriarcat? C'est ce que certaines femmes disent.
Oui, alors, plutôt certains hommes, en fait, je crois. Non, plutôt, non, on va pas faire de... Non, non, on va pas faire de... comment dire, on va pas séparer les choses comme ça, mais non, c'est plutôt, en fait, beaucoup d'antiféministes qui ont pu dire ça, de même que beaucoup d'antiféministes ont pu traiter les féministes de lesbiennes. À une certaine époque, ça date d'il y a longtemps, à partir du moment où il y a des premiers mouvements féministes, où, donc au début du 20e notamment, il y a eu beaucoup d'insultes de ce style-là. Les féministes, c'est des femmes qui n'aiment pas les hommes, donc qui sont lesbiennes, quoi. Mais évidemment, évidemment, on n'est pas attiré par une personne par conviction politique. Le désir, on sait très bien que ça se joue pas ou pas complètement, évidemment pas à ce niveau-là. Néanmoins, donc ça c'est une idée reçue qui était intéressante à traiter parce que ça m'a permis de revenir sur l'histoire du féminisme, oui. Notamment l'histoire des années 70, donc le féminisme deuxième vague récent. Bon, évidemment, c'est une idée un petit peu anecdotique dans la mesure où c'est pas la première idée que les gens vont avoir quand ils pensent aux lesbiennes. Ils vont pas se dire ah oui, elle est lesbienne parce qu'elle est féministe. Néanmoins, c'est quelque chose qui est notamment qui a notamment été évoqué parce que dans les années 70, les premiers mouvements féministes sont vraiment alimentés par beaucoup de lesbiennes. C'est-à-dire que la bannière à la femme du soldat inconnu, il y a un certain nombre de lesbiennes, alors qui s'identifient pas comme telles à ce moment-là, parce que la libération homosexuelle n'est pas encore non plus... Ça va se faire en même temps, tout ça. Libération féministe, libération homosexuelle, c'est les mêmes troupes.
Et en même temps, ce sont des oppositions dans ces courants, parce que, par exemple, lesbiennes radicales s'opposent aux féministes radicales, ils s'opposent sur le rôle de lesbiennisme. Ils s'opposent en quoi, d'ailleurs?
Alors, ça, c'est un peu plus tardif, c'est-à-dire qu'au départ, tout le monde lutte ensemble, parce qu'il y a plein de choses à faire, oui. Donc les hommes, les femmes, enfin les gays, les lesbiennes luttent ensemble, etc. Et puis au fur et à mesure des années 70, il va y avoir des scissions. Les lesbiennes vont créer leur propre groupe, les Gouines Rouges par exemple, parce que les revendications lesbiennes n'étaient pas forcément prises en compte par les féministes. C'est-à-dire que les lesbiennes se sont battues pour la sexualité des femmes, globalement, et pour la libération des femmes. Alors elles se sont battues pour la pénalisation du viol, pour la pilule, pour l'avortement, etc. Et puis en retour, d'une part, les féministes soutenaient pas forcément, les femmes avec lesquelles elles luttaient, qui étaient hétéros, luttaient pas forcément pour la visibilité lesbienne, par exemple, pour l'acceptation de l'homosexualité dans la société. Donc il y avait un petit retour d'ascenseur qui se faisait pas forcément. Et puis aussi, les lesbiennes ont pu dire, les féministes hétéros ont pu dire aux lesbiennes, vous êtes gentils, mais nous, ça nous discrédite votre sexualité. Parce que du coup, ça donne matière et donne prise à la critique de notre combat. Alors du coup, les lesbiennes, elles se sont dit, on va fonder notre propre groupe de militantisme, pour militer. Et puis par la suite, effectivement, il y a eu un petit clash aussi parce que certaines féministes disaient, il faut être non collaboratrice, c'est ça. Il faut être féministe jusque dans son lit. Et donc,
féministe jusque dans son lit, refus de la domination masculine jusque dans le lit.
Voilà.
Mais en même temps, il y a une certaine, c'est vrai qu'elles incarnent toutes les deux l'indépendance. Elles rendent les hommes assez superflus. Elles remettent en cause ce système de pouvoir. Et on remet en cause les relations entre les sexes.
Tout à fait. C'est pour ça que c'est extrêmement subversif, l'homosexualité féminine. C'est parce que il a fallu du temps pour que la société imagine que des femmes puissent être indépendantes jusque dans la sexualité, ce qui est vraiment subversif, très très gênant. Alors au-delà de l'anecdote, c'est vrai que c'est pas juste, il faut pas être non collaboratrice jusque dans son lit. C'est aussi parce que par exemple, Monique Wittig a écrit que les lesbiennes ne sont pas des femmes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une revendication, c'est très forte. Ça veut dire que le mot femme, qu'est-ce que c'est la femme? C'est une situation de domination. Et elle a écrit que, par exemple, l'hétérosexualité, c'était un système politique. Le mariage est un système politique, c'est-à-dire que l'hétérosexualité, c'est quelque chose d'instauré par la société pour assurer, asseoir la domination patriarcale. Bon, alors maintenant, on est évidemment, moi je me définis plutôt comme post-féministe, c'est-à-dire qu'on est, on est au-delà de ces problématiques-là. Cela dit, il reste encore énormément de travail, quoi.
Alors, c'est sûr, on peut revenir alors historiquement à cette idée que les femmes haïssent les hommes veulent être détrônés par elles, hein, qui seraient détrônés par elles. Ça commence véritablement au début des années 20 avec la première vague, c'est celle qu'on appelait les garçons. Tout a commencé comme ça.
Oh, ça, c'est un peu en amont encore, parce que bon, ça fait des siècles, hein, que les femmes se battent et pour le droit de vote et pour donc bon, l'histoire du féminisme, c'est quelque chose qui date bien au-delà des années 70 et même du début du siècle. Alors les garçons, bah, effectivement, il y a l'émancipation par le vêtement. Ça, c'est sûr que ça importe beaucoup. Après, dans les garçons, il y a aussi une mode. Enfin, on peut pas. Christine Barr, par exemple, est une chercheuse qui a beaucoup travaillé là-dessus. Il y a un livre très sympa que je recommande sur les garçons. C'est pas uniquement uniquement politique, hein. Mais cela dit, c'est vrai que l'émancipation de la femme passe aussi par le port du pantalon, et ça a été une lutte et ça a été une victoire d'une certaine façon. Et faut vraiment souligner que jusque dans les années 60, à l'école, les femmes n'ont pas le droit encore de porter le pantalon.
Ah, voilà. 1949, deuxième sexe, hein, Simone de Beauvoir. Oui. Alors, on ne naît pas homosexuel, on le devient. C'est un véritable pavé dans la mare. Une nouveauté de profonde peau. À l'époque, c'est complètement énorme.
Alors, on ne naît pas femme, on le devient surtout.
Ah, oui, on ne naît pas femme, on le devient.
Oui. Oui, tout à fait. Bah, oui, c'est sûr. Alors, ce qui est surprenant avec Simone de Beauvoir, c'est que c'est un livre absolument fondamental en France, aux États-Unis aussi. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on trouve aussi chez Simone de Beauvoir un chapitre sur la lesbienne. Donc, dans la formation de la femme, il y a un chapitre sur la lesbienne. C'est à la fois pétri de choses fondamentalement novatrices et libératrices. Et en même temps, il y a aussi certaines idées reçues qui sont. Bah, parce que voilà, c'est l'époque qui veut ça. Il faut du temps pour. Désancrer, si on peut dire, ça n'existe pas, mais en tout cas, déraciner les préjugés de mentalité.
Stéphanie Arc, on va s'interrompre pour quelques instants, c'est avec l'heure des informations, et après, on passera à certaines de ces idées reçues, on en parlera, entre autres, pourquoi est-ce que l'on devient lesbienne? Alors, certains qui disent, bon, voilà, certaines femmes deviennent lesbiennes parce qu'il y a eu déception amoureuse, parce qu'elles n'ont pas rencontré le bon, parce qu'elles sont tombées sur le mauvais lot. Alors, on va voir si c'est plus proche du roman de gare ou de la réalité, hein. On va voir ça avec vous tout à l'heure. Donc, Stéphanie, on est ensemble pour parler de votre livre publié dans cette collection qui s'appelle Idées reçues, et c'est aux éditions Cavalier Blanc.
Florence. Voix contre oreille sur Aligre FM.
Voilà, Stéphanie Arc, on se retrouve. Alors, pour continuer dans les idées reçues, hein, que l'on peut avoir sur les lesbiennes, eh bien, il y en a une, hein, sur les origines, hein, de cette attirance. Eh bien, il y en a beaucoup qui disent, eh bien, dans les raisons qui peuvent expliquer cette attirance pour le même sexe, eh bien, il peut y avoir cette déception amoureuse. Et c'est des femmes qui n'ont pas rencontré le bon, qui sont tombées sur le mauvais lot. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, alors ça peut arriver, mais non, en fait, plus au-delà de l'anecdote, c'est vrai que c'était une des idées reçues finalement les plus rigolotes, en fait, si on peut dire, parce qu'il y en a qui étaient beaucoup plus sérieuses. Mais c'est des choses qu'on entend très fréquemment, hein. Voilà, bah oui, t'as vécu que des choses de négatives avec des garçons, et du coup, au bout d'un moment, on se lasse et on se dit, oh, bon, bah, si les filles, peut-être ça va mieux marcher. En fait, ça part surtout. Alors, qu'est-ce que ça traduit tout ça? Ça traduit l'idée qu'effectivement, les femmes sont présumées, ce qu'on appelle présumées hétérosexuelles, c'est-à-dire que et de fait, ce qui se passe, c'est que beaucoup de femmes qui se tournent vers les femmes par la suite ont commencé leur vie amoureuse et sexuelle avec des garçons. Et c'est ce que des sociologues, notamment Brigitte Lomont, qui est une des seules à avoir travaillé cette question-là, explique par ce qu'elle appelle la contrainte à l'hétérosexualité, qui serait plus forte sur les femmes, qui s'exercerait d'une manière plus forte sur les femmes. Alors, il ne faut pas entendre par là des rapports contraints et forcés, hein. Il faut entendre par là une forme de pression sociale qui fait que les jeunes filles vont, même quand elles peuvent avoir eu des désirs pour des femmes en étant adolescentes, etc., vont commencer en général, vont avoir leur premier rapport avec un garçon et vont avoir sans doute un certain nombre, enfin, parfois un certain nombre d'histoires avec des garçons avant de se rendre compte qu'elles ont du désir pour les femmes et avant de l'assumer. C'est un désir qui, le désir homosexuel, c'est un désir qui a son chemin, qui fait son chemin, en fait. C'est, voilà.
Dans le fait fait qu'il y aurait une attirance pour une femme, une autre femme, ce serait le fait d'avoir des déceptions amoureuses, le dépit amoureux comme raison, ça c'est aussi assez flatteur pour l'homme. Hein.
Oui, bien sûr.
Et quand on lit le livre de Victor Marguerite, hein, c'est un livre qui a été publié en 1922, et sa garçonne à lui est une garçonne qui a... Elle a une homosexualité réactive, passagère et réactive.
Oui, oui, tout à fait. Bah, effectivement, on entend aussi beaucoup que ça ne durera pas, que ce sont des buettes d'adolescentes, que ça va passer, parce que ça arrangerait beaucoup de gens, enfin, et parfois la famille aussi, simplement les parents et les amis, ça arrangerait ses proches que la jeune fille en question ou la femme plus âgée retourne dans le droit chemin. Et voilà, on se dit, c'est vrai que donc la garçonne, donc de Victor Marguerite, qui est un roman qui a eu un énorme succès donc en France au début du 20e. Ça se termine par elle rencontre un homme qui la remet dans le droit chemin après avoir eu des frasques, après avoir consommé beaucoup d'opium, c'est une sexualité complètement libérée. Du coup, ça l'a fait plonger dans le stupre. Hein, mais heureusement, il y a ce professeur de philo qui arrive et qui la remet dans le droit chemin. Bon, c'est à la fois anecdotique et en même temps, ça traduit effectivement la gêne que ça peut susciter.
Autre idée reçue, alors je ne sais pas, vous allez nous le dire, dans les explications, ça serait la faute aux parents. Alors, et d'ailleurs, hein, quand un enfant déclare son homosexualité aux parents, inévitablement, le parent s'interroge hein, sur les ratés de leur éducation, il y a une énorme culpabilité. Hein, et aujourd'hui aussi, avec une éducation faite aux enfants par un seul parent, avec cette famille monoparentale, je veux dire, ça se pose encore plus, hein, cette question. Alors, on peut considérer l'homosexualité comme liée au développement effectivement affectif et sexuel. Là, on retrouve bien sûr les idées de Freud, hein, qui trouve dans cette fixation plusieurs causes possibles. Hein. Il y aurait ce complexe d'Oedipe, bien sûr, mal résolu. Et donc, l'origine de l'homosexualité pourrait être au cœur de ces rapports familiaux, oui, etc.
C'est-à-dire que voilà, c'est une chose qu'on rencontre. Alors, pas tous les parents réagissent comme ça, mais un grand nombre de parents, je pense, quand ils apprennent immédiatement, la première réaction qu'ils ont quand ils apprennent l'homosexualité de leur enfant, c'est de se dire ça. C'est de se rejeter la balle, c'est de culpabiliser. C'est quelque chose que j'ai vraiment rencontré fréquemment. Et à l'association Contact, par exemple, l'association des parents, ils rencontrent fréquemment cette question-là. Alors après, pour finalement, qu'est-ce qui reste, en fait, si on FAQ tous ces facteurs? Parce que, moi, je pars du principe que tous ces facteurs qu'on a évoqués, c'est-à-dire des facteurs familiaux, des facteurs sociaux, des facteurs peut-être biologiques, dont on n'a toujours pas trouvé, qu'on n'a pas isolé, pourraient être, c'est un faisceau de facteurs, la sexualité. Qu'est-ce qui nous porte, en fait, vers certaines personnes plutôt que vers d'autres personnes. Voilà, c'est les rencontres qu'on a pu faire au cours de notre vie, etc. Donc c'est pas, évidemment, c'est pas le milieu familial a son importance dans la constitution de l'identité de l'individu. Ça c'est indéniable. Nos parents nous ont formés, nous ont appris les choses.
Alors une chose originale, vous allez continuer sur ce que vous dites parce que c'est extrêmement intéressant, mais l'idée que les parents pourraient même souhaiter inconsciemment l'homosexualité de leur enfant, qu'en fait il viendrait du désir des parents.
Oui, non, mais ça c'est, enfin je veux dire, on n'est pas non plus que le produit de nos parents. C'est notre sexualité n'est pas uniquement.
C'est juste une petite parenthèse. Voilà, une fois qu'on a tout évacué ça, pourquoi?
Ben oui, alors c'est ça. Ben alors pourquoi? En fait, il faudrait vraiment s'interroger sur les causes de notre désir. Mais elles sont multiples. Enfin,
s'interroger cas par cas.
Oui, même chacun pour soi-même peut se demander pourquoi, qui il est, pourquoi il préfère ça et ça. Si tant est que ce soit une question intéressante à se poser. Mais je pense que toutes les questions sont intéressantes à soulever. Ensuite, je pense que c'est multifactoriel et c'est ce qu'on dit les neurobiologistes, c'est-à-dire voilà, c'est un ensemble, c'est une histoire, nous sommes le produit et nos désirs et nos envies et nos buts et tout ce qui fait notre vie quotidienne et dans sa globalité sont le produit d'une histoire personnelle, quoi. Et donc ce sera le rapport à la maman, ce sera le rapport au papa, ce sera les amis, ce sera les éventuels traumatismes, les éventuelles belles rencontres, je crois qu'il faut s'interroger d'un point de vue à la fois personnel et puis ne pas uniquement stigmatiser, c'est ça qui est intéressant, cette sexualité-là. C'est-à-dire que c'est la faute aux parents, ce qu'il faut surtout, faire sauter dans cette idée reçue, c'est que c'est une histoire de faute, en fait. Hein, c'est tout simplement ça. C'est-à-dire que les parents ne sont pas coupables. Je veux dire, l'homosexualité n'est pas un problème, en réalité. Enfin, c'est ce douloureux problème, comme disait Ménie Grégoire en 71, qui est dans l'émission sur RTL. Elle avait intitulé son émission « L'homosexualité, ce douloureux problème ». Et là, un groupe de militants homosexuels a débarqué au cours de l'émission. C'était le premier un happening, en fait. Militant, parce que il faut arrêter de considérer aussi l'homosexualité comme ce douloureux problème, quoi. One day I'll grow up, I'll
be a beautiful woman. One day I'll grow up, I'll be a beautiful girl. One day I'll grow up, I'll be a beautiful woman. One day I'll grow up, I'll be a beautiful girl. But for today, I am a child. For today, I am a boy. For today, I am a child. For today, I am a boy. One day I'll grow up, I feel the power in me. One day I'll grow up, this I'm sure. One day I'll grow up, I'll know a womb within me. One day I'll grow up, feel it full and pure. But for today, I'm a child. For today, I am a boy. For today, I'm a child. For today, I am a boy. For today, I am a child.
Donc cette chanson, c'est For Today I'm a Boy, c'est Anthony and the Johnsons, et c'est un chanteur qui, moi, me touche énormément, parce qu'il traite notamment des questions, alors c'est une grande, vous avez, il a une voix assez féminine, etc., assez magnifique, très touchante, et c'est une grande baraque, 1m90, c'est impressionnant, donc c'est vraiment un contraste surprenant, et il évoque la question de la transidentité, en fait. Puisqu'il dit aujourd'hui je suis un garçon, aujourd'hui je suis un enfant, avec l'idée que demain il sera une femme. Et donc c'est quelqu'un qui évoque cette question de la transidentité. Alors c'est quelque chose d'important, j'en ai un peu parlé dans le livre, parce que, alors évidemment il y a encore beaucoup de travail, parce que là par exemple la transidentité est encore considérée comme une maladie psychiatrique, donc il y a encore un travail à faire comme pour les homosexuels, donc dans les années 70, il faut dépsychiatriser, c'est vraiment un combat important, et je crois que les homosexuels doivent aussi aider les personnes transgenres à mener ce combat. Et donc, c'est important. Dans le livre, j'en ai parlé parce que beaucoup de gens confondent donc ce qui s'appelle l'identité de genre et l'orientation sexuelle, c'est-à-dire que beaucoup de gens pensent que les, alors autrement dit, que les lesbiennes sont masculines et que les gays sont efféminés. Ça veut dire quoi? C'est parce qu'ils pensent que ils mélangent en fait l'orientation sexuelle, qui est le désir ou le désir pour une personne du même sexe, et l'identité de genre, qui est je suis un homme ou une femme, je me sens comme un homme ou une femme, c'est-à-dire la manière dont on s'autodéfinit par rapport au sexe. Donc d'un côté il y a la sexualité, et de l'autre il y a l'identité de sexe ou l'identité de genre, je suis un homme ou une femme, et de l'autre je préfère les hommes ou les femmes. Et c'est deux choses complètement indépendantes. C'est-à-dire que par exemple, alors, pour expliciter d'une autre manière, les personnes transgenres peuvent être homosexuelles ou hétérosexuelles. C'est-à-dire que ce qu'on appelle M2F, par exemple, c'est-à-dire un homme biologique qui se vit comme une femme, qui est une femme en fait, ou l'inverse, cette personne peut préférer les garçons ou préférer les filles, en fait. Ça n'a pas d'incidence, en fait. Le fait de se définir comme un homme ou une femme n'a pas d'incidence sur la sexualité. C'est pas ça qui la détermine, en fait. C'est pas ça qui détermine le désir.
Florence, voix contre oreille, sur Aligre FM.
A man we pass just tried to stare me down.
Oui, donc
Ah oui, expliquez encore ce que vous venez de dire.
C'est des questions qui sont à la fois très simples et pas faciles à expliquer. C'est-à-dire que, on va prendre un exemple, vous vous déterminez comme une femme ou un homme. Vous êtes plus ou moins féminine ou plus ou moins masculine, vous aimez porter des robes ou des pantalons. Et ça, c'est la manière dont vous constituez votre genre, votre sexe, votre identité sexuée. C'est-à-dire, je me reconnais plutôt dans des valeurs masculines ou plutôt dans des valeurs féminines. C'est-à-dire qu'on peut être une femme hétérosexuelle et être très masculine. Enfin, masculine, ce sont des normes sociales, attention, hein, c'est masculin-féminin, c'est ici, maintenant. C'est-à-dire que à 60 km, disons, j'exagère, mais enfin, à 60 000 km d'ici, c'est pas la même chose. C'est totalement social. On a l'impression que c'est dans la nature d'être masculin-féminin. Tout ça, c'est des valeurs sociales et culturelles. Mais donc, d'un côté, il y a ça, il y a l'identité de genre, c'est-à-dire, j'aime les baskets ou les robes. Enfin, pour faire un peu les choses grossièrement. Et de l'autre, il y a, je préfère les femmes ou les hommes. Soit d'ailleurs l'homosexualité c'est quoi d'ailleurs, ça peut être du désir purement physique, ça peut être des fantasmes, ça peut être une sexualité extrêmement occasionnelle. Il y a des hommes qui sont mariés et qui ont des relations, des aventures très peu fréquentes avec des garçons, mais néanmoins il y a aussi l'identité, c'est-à-dire je me considère comme lesbienne ou comme gay, et les choses peuvent être aussi dissociées. En fait, mon travail c'était aussi de dissocier toutes ces choses que les gens ont tendance à agglomérer en pensant que être homosexuel c'est par exemple coucher à droite à gauche ou bien... Mais en fait, en réalité, il y a des femmes qui peuvent se définir comme lesbiennes et qui n'ont jamais eu de rapport sexuel avec une autre femme. Et inversement, il y a des femmes qui ont des rapports, qui peuvent avoir des rapports fréquents avec d'autres femmes et qui vous diront « je suis hétéro, mais de temps en temps... » Donc c'est toutes ces questions-là. Mais il faut bien distinguer d'un côté le fait de se vivre comme un homme ou une femme, et qui d'ailleurs n'est pas forcément lié à l'anatomie du corps. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est ça le transgenre. C'est-à-dire la transidentité. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui naissent dans un corps de femme et qui se vivent comme des hommes et qui sont du coup des hommes. Et c'est pour ça qu'on doit dire « il » du coup. Si, selon la propre définition, c'est l'autodéfinition qui importe. C'est comment je me vis.
Alors ça rejoint complètement un de vos premiers chapitres, je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre « Idées reçues ». C'est un livre qui est publié dans cette collection qui s'appelle « Idées reçues » aux éditions du Cavalier Bleu. Donc vous répertoriez certaines de ces idées reçues. Dans ces idées reçues, il y a bien sûr le fait que l'on se dit qu'on reconnaît facilement ces femmes qui aiment les femmes parce que bon, elles ont une chemise de bûcheron, elles portent des Doc Martens, elles ont les cheveux en brosse, et qu'on se dit, il est impossible de se tromper parce que cette femme est lesbienne. Alors, je continue, c'est vous qui le dites. Tel est du moins l'avis d'un bon nombre de personnes pour qui les lesbiennes sont reconnaissables à leur apparence, une apparence virile et souvent peu gracieuse, à l'image de Marie-Jo dans Gazon Maudit, qui conduit son minivan, cigarillo aux lèvres, et dans l'imaginaire collectif, les lesbiennes portent des vêtements effectivement masculins et se comportent comme des hommes.
Oui, tout à fait. C'était ça, en fait. C'était pour expliquer le désir des femmes pour les femmes. Il fallait pousser les lesbiennes du côté des garçons, enfin des hommes, en fait. Elles se prennent pour des hommes. Ce sont des hommes manqués. On l'entend souvent.
C'est pas vrai.
Ils sont manqués. Alors, ce qui était intéressant dans ce livre, justement, c'était de faire la part des choses. C'est-à-dire que je me suis dit, je peux pas simplement dire c'est faux, parce qu'effectivement il y a une partie, il y a un certain nombre de femmes lesbiennes qui aiment, qui se plaisent à porter des vêtements masculins, à jouer avec les rôles, enfin masculins encore une fois entre guillemets, considérés comme plutôt masculins ici dans notre société, et qui aiment bien comme ça brouiller les pistes en portant des cravates, etc., en se masculinisant un petit peu. Et donc je me suis dit, mais pourquoi en fait? À quoi ça correspond? Est-ce qu'il y a des explications? Alors j'ai cherché partout. Et en fait, il y en a plein, des explications. C'est-à-dire que personnellement, chaque femme pourra vous dire, oui, moi j'aime... Et c'est très intéressant, il y a des sociologues qui s'interrogent là-dessus. Il y a Natacha Chetkuti, par exemple, qui a mené des entretiens qualitatifs. C'est-à-dire elle a passé un certain nombre de... Elle a discuté avec des femmes, d'un point de vue sociologique. Pourquoi vous... Est-ce que vous considérez comme masculine? Alors souvent, le curseur est placé au milieu. C'est-à-dire, c'est comme ça n'a pas tellement bonne presse d'être une camionneuse, parce que c'est comme ça qu'on appelle ça, d'être une camionneuse, en général, c'est plutôt l'androgynie qui est très valorisée, qui est plutôt valorisée. Et puis ensuite, ces femmes, elles peuvent vous expliquer que simplement, c'est plus pratique, ce en quoi c'est pas tout à fait faux souvent, de porter un jean plutôt que de porter des bas, etc. Il y a aussi des raisons féministes, il y a des raisons politiques, c'est-à-dire que, comme dans les années 70, c'est aussi pour s'affranchir de la condition féminine imposée via notamment il y avait les corsets il y a longtemps, mais voilà, c'est aussi ça. Il y a aussi la subversion des rôles. de point de vue, puis ça peut être ludique, le travestissement peut être ludique si c'est du travestissement, ça peut être aussi donc une forme de travestissement, c'est-à-dire ce qu'on appelle les drag kings, ce sont des femmes, donc comme les drag queens, en fait on n'en parle pas bien sûr parce que c'est beaucoup moins connu que les drag queens, bah oui c'est, ce sont des femmes, on en parle moins, mais ça existe, il y a des performances comme les drag queens, des performances, des femmes qui font des performances en se travestissant, donc, voilà, sur scène, etc. Donc il y a tout un tas de raisons en fait. Et il y a aussi quand même une chose importante que j'oublie, ce que j'appelle moi des modes communautaires, c'est-à-dire que c'était aussi une manière de se reconnaître entre soi. Parce qu'il faut quand même imaginer que on est dans un monde quasiment entièrement hétérosexuel et que pour se reconnaître entre soi, simplement pour s'identifier, il y a des petits signes de reconnaissance selon les époques. Alors c'était tantôt la couleur lila dans les années folles. Mais ça peut être tout un tas de choses. Enfin, c'est anecdotique, mais ça peut être un certain look en fait qu'on arbore pour être visible. Voilà, pour être visible dans la société, quoi.
Pigalle, les néons des boutiques annoncent des lesbiennes live shows. Sur les affiches de métro, il y a des couples de femmes qui s'enlacent pour les beaux jours de Calvin Klein et de Dior. Hein. En couverture des magazines pour hommes, il y a des demoiselles qui sont en tenue d'Ève et qui se tiennent par la taille. Les lesbiennes sont assez présente hein, sur les murs de nos villes.
Alors c'est très paradoxal parce qu'à la fois les lesbiennes sont invisibles, c'est-à-dire qu'on en parle très peu encore, etc. Et puis d'un autre côté, on en voit partout. Alors je me suis interrogée sur cette dichotomie, ce paradoxe apparent. Ben en fait, c'est parce qu'elles sont montrées sous une forme érotisée. Enfin,
l'androgynie a quelque chose de très attirant.
Alors c'est pas l'androgynie dans ce cas parce que, enfin, ça peut être l'androgynie, mais ça c'est assez récent. Ce serait et même le porno chic quand on voit des lesbiennes, enfin, quand on voit des femmes pour Dior par exemple, qui sont dans des positions un peu lascives à deux, etc. C'est souvent pas des femmes androgynes. Hein. C'est des femmes qui ont une apparence très féminine. Mais donc c'est pour ça que je me suis dans les films érotiques aussi, dans les films pornographiques, c'est pas des lesbiennes comme il y en a dans d'autres séries qui sont elles-mêmes issues de lesbiennes. Mais c'est ça, c'est qu'il y a un usage des lesbiennes qui est érotisé en fait en permanence. Et c'était une manière de démystifier, de désacraliser ou de considérer avec condescendance de démystifier l'homosexualité féminine réelle. C'est-à-dire des femmes qui n'ont pas besoin d'hommes, qui ne se mettent pas en scène pour le plaisir du regard de l'homme, sans voyeurisme quoi. C'est pas très évident ce que je viens de dire, mais c'est-à-dire que oui, c'est un usage érotique qui est fait de, mais c'est pas de l'homosexualité du coup, parce que la vraie homosexualité, il y a pas de garçon dans l'affaire. Dans les films érotiques, il y a toujours un garçon qui arrive. Mais en réalité, la vraie homosexualité, elle se passe complètement d'homme. Enfin, voilà.
Yeah.
donc ça c'était Goldfrapp et ça s'appelle You Never Know. Et je trouve que j'aime beaucoup cette chanteuse. Et puis You Never Know, je trouve que c'est une phrase intéressante parce qu'on ne sait jamais effectivement qui on va rencontrer, et comment va se passer notre existence. Et il faut se laisser surprendre, je crois. Voilà. C'est une philosophie.
Florence, voix contre oreille, sur Aligre FM.
Une enquête sur la lesbophobie qui a été menée en France par SOS Homophobie. Hein. Mm-hmm. Et vous faites partie de cette association,
tout à fait, oui.
Stéphanie. Et c'était entre octobre 2003 et janvier 2004. Et 57% des femmes interrogées déclarent avoir déjà été victimes de comportements lesbophobes. Et dans 45% des cas, elles les ont rencontrées à l'extérieur. Dans 44% des cas, dans le cadre familial. Au travail, elles sont victimes de discrimination dans 24% des cas, généralement. De moqueries aussi et de rumeurs. 64% d'entre elles estiment enfin que les mentalités évoluent, mais 24% trouvent que cela est toujours aussi dur.
Oui, tout à fait. En fait, donc moi je suis venue à SOS Homophobie après avoir écrit le livre. C'est important de le dire parce que j'ai fait ce livre, j'avais une obligation de neutralité dans mon contrat, donc c'est pas un livre militant. Et puis, en le terminant, je me suis rendu compte, alors je les avais contactés, SOS Homophobie, qui m'avait parlé de cette enquête sur la lesbophobie, parce qu'il y a très peu d'enquêtes. Ce qu'il faut savoir, c'est que s'il y a des statisticiens et des sociologues qui se sentent une âme de chercheurs sur ces sujets-là, ce serait bien parce qu'il y en a très peu. Et donc SOS Homophobie en 2003, s'est rendu compte qu'il y avait très peu d'appels de lesbophobie. Il y avait un appel sur cinq qui provenait d'une femme sur leur ligne d'écoute, parce que c'est une ligne d'écoute de témoins et de victimes d'homophobie. Et donc ils se sont dit, on a une très mauvaise connaissance de la réalité de ce qu'on appelle la lesbophobie, c'est-à-dire l'aversion à l'égard des lesbiennes. Et donc ils se sont dit, on va faire une enquête. Et ils ont mené cette enquête sur 1700. Il y a eu 1793 réponses, donc c'est quand même un panel intéressant. Et puis effectivement, on s'est rendu compte avec stupéfaction que 57%, donc plus la moitié des femmes, disaient avoir connu de l'homophobie. Et puis en réalité, il y en a plus parce qu'elles se sont, elles n'ont pas toujours coché la case oui, mais ensuite elles ont coché ce qu'on appelle les contextes, c'est-à-dire elles ont pu cocher qu'elles avaient été victimes dans la famille, etc. Donc ça en fait 63% en réalité. Et c'est des chiffres intéressants parce qu'ensuite on les a analysés. Effectivement, le premier contexte, c'est ce qu'on a appelé la vie quotidienne, c'est-à-dire la rue, les sorties de boîtes de nuit, les transports, etc. Et c'est essentiellement des insultes, par exemple. Voilà. Et puis la famille est un contexte extrêmement important aussi, dans lequel elles subissent pas mal de violences.
Alors, il y a encore des pays où ces femmes sont aussi réprouvées, violentées, ouais, parfois tuées pour des raisons de leur préférence amoureuse. Et en fait, c'est dans la majorité des États que ça se passe comme ça.
Bien sûr.
Et que ces femmes, et dans une minorité d'États, les femmes qui s'aiment sont libres de le vivre ouvertement. C'est-à-dire, c'est en Amérique et en Europe. Sinon, c'est donc très, très limité.
Moi, je me suis surtout effectivement intéressée à l'Europe occidentale, les États-Unis et puis le trio Allemagne, Angleterre, France. Hein. Mais par ailleurs, oui, dans d'autres cultures, l'homosexualité est considérée d'une autre façon. Nous, on est assez libre. Bon, en Iran, c'est plus difficile. Dans d'autres pays, d'Afrique notamment, et voilà. Et l'homosexualité peut être la cause on peut être puni de mort. Et en Iran, par exemple, il y a des garçons qui sont pendus aussi, qui ont été pendus. En Égypte, il y a des rafles dans les. Voilà. Donc, nous, il y a eu ces mouvements de libération qui fait que je peux vous parler à l'antenne aujourd'hui. Mais il faut quand même se souvenir que, comme vous le disiez tout à l'heure, en 82, c'était encore considéré comme une maladie psychiatrique. La dépénalisation de l'homosexualité, c'était 81 en France. Hein, donc c'est un combat qui a mené à peu près partout.
De pierre, de marbre. Merci beaucoup Stéphanie.
Merci à vous.
Stéphanie Arc d'être venue ce matin. Votre livre Les Lesbiennes est publié dans cette collection qui s'appelle Les Idées Reçues aux éditions Le Cavalier Bleu. C'est un livre, bravo, parce que c'est un livre extrêmement érudit.
Merci.
On apprend énormément de choses en vous lisant. C'est un livre où il y a beaucoup de. Vous passez en revue beaucoup d'auteurs qui ont travaillé sur le sujet. Vous avez interrogé aussi beaucoup de chercheurs, oui, de sociologues. Je vous remercie beaucoup Stéphanie.
Merci.
Je vous
dis
à bientôt, j'espère.
Au revoir.
Merci. Voilà. Juste pour dire que demain matin, je serai avec Viviane Malheur, qui est l'auteur de ce livre « Souriez, vous êtes ciblé » et qui va parler de la grande manipulation des consommateurs. Donc ça sera demain à partir de 8h. Très bonne journée à tous, à demain. Et merci à Enzo Di Meo et à Rémi Drujon qui ont réalisé l'émission.